La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt?
Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée. Luc Desormeaux au micro ce soir et on se paye une émission techno parce que avec moi, c'est celui qui m'aide à parler technologie, Monsieur Steve Lévesque. Salut Steve.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien.
Ton Noël, es-tu prête là? T'as-tu tous tes cadeaux, tout est fait, prête pour...
Non.
Non, hein?
Tout le temps, ben, pas tout le temps, dernière minute, non, mais... Il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute, qui...
Ouais, c'est difficile de trouver des cadeaux aussi pour les enfants.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'en profite en fin de semaine, c'est mon party de bureau, puis ben, cette année, c'est à l'extérieur, vu qu'on a... Ben, je dis à l'extérieur. On a trois bureaux, puis c'est pas dans la ville dans laquelle où je travaille, c'est dans une autre ville.
Okay.
Je vais en profiter pour magasiner dans l'après-midi avant mon party de bureau.
OK. Ouais, c'est une bonne chose. Des fois, les magasins ailleurs, ça te permet de trouver des choses peut-être que tu ne trouves pas nécessairement dans ton coin.
Ouais.
Qui est intéressant. Bon, on a plusieurs choses aujourd'hui pour l'émission. Comme j'ai dit, ça va être une émission techno. Donc, j'espère que vous allez apprécier parce qu'on parle vraiment plus de matériel informatique et de choses du genre ou tout ce qui a rapport avec l'informatique et la technologie. On va parler de Huawei ce soir. On va parler de AMD. On va parler de la future PlayStation 5, peut-être, rumeur. On va parler aussi de Qualcomm et d'un nouveau processeur qui va sortir. On va parler de Nvidia et une nouvelle carte vidéo qui vient de sortir. On va parler de Microsoft. Non, pas de Windows 10 version 18.09 que j'ai reçu. Je ne sais pas si toi tu l'as reçu, mais présentement, j'ai quelques PC à la maison puis ils sont tous sous 18.09.
J'en ai au bureau, j'en ai une des deux qui me l'a offert. L'autre... encore à 18.03.
Encore, ouais.
Chez moi aussi, c'est 18.03.
OK, moi j'ai 18.09. T'as-tu des processeurs Intel partout?
Vite fait, je dirais que oui.
À part ton nouveau Ryzen que tu viens de t'acheter.
Ouais.
Là,
mais ouais, qui n'est pas fini de monter.
Qui n'est pas fini de monter. Mais il y aurait une rumeur que les gens qui n'ont pas reçu encore le 18.09 seraient des gens qui ont un certain pilote graphique qui aurait rapport avec Intel. Fait que les pilotes graphiques intégrés, là,
ouais.
Normalement, ça serait ça. Il y aurait un bug avec un certain pilote graphique Intel, puis c'est ça qui retarderait certaines personnes à avoir 18.09. Fait que. Qui est rendu 18.11, là, mais bon. On est en retard un peu. C'était supposé être septembre, finalement, ça a été octobre retiré, novembre maintenant disponible. Fait que, mais à date, je pense que tous mes PC sont à 18.09, mais j'ai pas de PC Intel qui reste. C'est tout du AMD partout. Donc, c'est ça. À part celui à mon fils, j'ai pas regardé si mon fils avait eu 18.09. Faudrait que je regarde. Puis on va finir avec une histoire assez intéressante sur quelqu'un qui a décidé de pirater, ou on pourrait dire en anglais, de hacker des imprimantes pour lancer un message. Donc, on va commencer avec une nouvelle que tu as sortie, Steve. C'est la fille du fondateur d'un manufacturier de téléphone quand même assez connu qui essaie de prendre sa place, qui est Huawei. Huawei qui mange des taloches un peu de gauche à droite. Là, les Américains veulent rien savoir d'eux. Il y a beaucoup de pays qui veulent les bannir de faire affaire avec des compagnies internes à leur pays. Les États-Unis, c'est un peu ça. Ça va pas tellement bien. Puis là, ben sa fille serait un petit peu dans l'eau chaude.
Ouais, c'est ça. Ça va un petit peu moins bien aussi. En fait, c'est pas seulement que c'est la fille du fondateur de Huawei, mais c'est aussi la directrice financière de la firme.
OK.
Puis, elle est accusée d'avoir interféré dans les sanctions que les États-Unis ont prononcées contre l'Iran.
OK.
Donc, c'est vraiment... Puis, dans l'article, ils disent que ils ont comme surnommé ça l'affaire Huawei versus les États-Unis.
Là. OK.
Puis, écoute, on ne sait pas si c'est véridique ou pas, ou si ça vient justement de la haine qu'il y a envers Huawei. Puis...
Ouais.
Et tout ça, puis en même temps, excusez, ça, ben c'est quoi, je trouve que ça a plus ou moins rapport, sauf peut-être si c'est vrai, sauf que tu sais, c'est les États-Unis contre l'Iran, puis la Chine se serait prononcée contre, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux, puis c'est ça, elle aurait caché des liens entre Huawei et la firme Skycom, qui tentait de contourner les sanctions américaines et européennes prononcées contre l'Iran.
OK.
C'est des, ben, ils disent des graves conséquences. On le sait pas encore, puis on le saura probablement pas tout de suite, parce que c'est les États-Unis demandent qu'elle soit extradée vers les États-Unis. Là, présentement, je pense qu'elle est retenue au Canada, puisqu'elle s'est faite arrêter entre deux vols à l'aéroport de Vancouver.
OK.
Donc, elle est probablement incarcérée au Canada. Puis, ben, les États-Unis, eux, demandent qu'elle soit extradée vers les États-Unis. La Chine demande qu'elle soit libérée sur le champ parce qu'ils disent que ça n'a pas lieu d'être. Mais ça pourrait aller jusqu'à 30 ans de prison.
Ça commence à être long pour surtout qu'elle a 46 ans.
C'est ça, ouais.
C'est long un peu passer 30 ans en prison, mais je sais pas, c'est certain. C'est sûr et certain que si le Canada la laisse partir puis elle retourne en Chine, on la reverra pas.
Non,
C'est
ça c'est ça.
certes, les Américains vont pouvoir dire au revoir ou à la possibilité de la ramener pour qu'elle ait un procès ou quelque chose comme ça. Elle va rentrer en Chine puis elle va juste disparaître. Pas parce qu'ils vont l'éliminer, là, mais elle va disparaître, genre qu'elle ne sortira plus de là puis il n'y aura aucune chance que les États-Unis puissent la rapatrier pour y faire son procès, là. Ça arrivera juste
Exactement.
pas, elle va se faire protéger. Je veux dire, on s'entend-tu que c'est être à la tête de Huawei, elle vaut quelques dollars, là.
Effectivement.
Je pense que les Chinois veulent garder leurs citoyens aussi un peu à l'interne, surtout un citoyen qui a une valeur un peu comme cette personne.
Oui, tu sais,
Donc, ouais.
puis Huawei, ils sont deuxième mondial là, au niveau des ventes de cellulaires, donc ils ont vraiment pris leur place. C'est gros, là. C'est pas juste les. Ben, même si ça serait juste les septièmes ou les huitièmes, ça serait quand même assez gros, là.
Ouais.
Mais ils sont deuxièmes. Fait que.
Ben, ils ont des beaux téléphones, ils ont des belles technologies. On entend beaucoup parler de ces téléphones-là depuis peu, là. Même si ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Ça fait pas tellement longtemps nécessairement qu'ils sont rentrés au Canada. Puis on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de critiques de ces téléphones-là qui apparaissent en ligne. Mais le problème, puis ça a été plus ou moins prouvé, c'est qu'il y aurait un lien assez étroit entre Huawei et le gouvernement chinois, puis même au fait que Huawei pourrait retransmettre finalement nos données personnelles au gouvernement chinois. Donc, tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai vu l'histoire passer un peu, tu m'as envoyé ça, puis j'entends comme les annonces de Bell à la radio, je pense qu'ils disent « Ah, j'ai eu un beau téléphone Huawei pour Taïwan. » Ouais, mais tu sais...
Ouais, c'est ça, ouais. À quel prix?
T'es sûr que tu le veux ton téléphone Huawei? T'sais, tant que ça sera pas, je veux dire, il y a aucune preuve là, mais t'sais, si t'as un doute, tu vas-tu vraiment acheter le téléphone d'une compagnie que tu sais pas si elle revendra pas tes données? T'sais,
Non,
c'est
c'est ça.
difficile à savoir un peu là. Mais bon.
On peut chialer beaucoup contre Apple, mais c'est une des choses que eux ont refusé de faire, c'est justement de modifier leur algorithme qui aurait permis justement aux autorités américaines de pouvoir accéder aux données des téléphones, puis ils ont refusé de faire ça.
Ouais, mais là, il y a une autre loi qui est en train de passer en Australie qui forcerait les compagnies de téléphone à mettre un backdoor qu'on appelle, donc une porte arrière, là, un trou de sécurité volontaire dans leur téléphone pour pouvoir décrypter les téléphones des clients si jamais la loi le demande. Donc, si la police dit, ben nous autres, on veut avoir les informations de cette personne-là, le fabricant de cellulaire ne pourrait pas dire non. Donc c'est ça où tu fais plus affaire dans le pays finalement. Fait qu'on a hâte de voir un peu comment. Puis là, c'est sur le bord de passer. Ça a l'air que ça a été accepté par la Chambre des communes. Puis ça serait accepté comme loi en début 2019. Fait que ça veut dire que aussitôt que quelqu'un commettrait un méfait en Australie, si la police pense qu'avoir accès à ses données cellulaires pourrait les aider dans le cas, ben ils vont être obligés de débarrer le téléphone puis donner l'information aux policiers. Ce que les Américains voulaient faire aussi avec Apple dans certains cas, un cas d'un tueur en série ou je pense ou un terroriste en Californie ou que certains cas comme ça où les autorités américaines ont demandé à Apple débarre le téléphone puis Apple a juste dit non. Mais c'est un peu, je pense qu'Apple a dit non parce que c'est de la manière que les autorités l'ont demandé. Et non pas du fait qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils l'auraient demandé d'une manière polie avec peut-être un mandat, Apple aurait probablement dit oui. parce qu'ils sont capables. Puis Apple serait probablement la seule compagnie à être capable de faire un système avec une porte arrière pour décrypter le téléphone d'un client qui aurait commis un méfait grave. Là, on parle de terroriste, enlèvement d'enfants, pornographie juvénile, peu importe. Là, être capable d'entrer dans le téléphone parce que Apple serait capable de créer une clé spécifique pour le téléphone. Pas une clé générique pour tout le monde, mais une clé spécifique pour chaque téléphone. Donc, si tu as la clé, mettons, moi j'ai un téléphone Apple, toi tu as un téléphone Apple, ta clé débarre pas mon téléphone, ma clé débarre mon téléphone, ta clé débarre ton téléphone. C'est peut-être ça qu'ils vont être obligés de faire si la loi en Australie passe, ou décider de plus faire affaire là. Mais regarde, Google était sorti de Chine parce que la Chine voulait leur implanter des règles que Google n'était pas prêt de suivre. Puis quoi, 3-4 ans plus tard, Google revient, puis là finalement ils vont suivre les règles chinoises parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent percer le marché.
Ouais. Qui est quand même assez gros aussi. Ouais.
On pourrait dire, comme, genre. Pas pour rien que Huawei, le deuxième fabricant de téléphone au monde, hein. Parce que la Chine, c'est un marché assez énorme. OK. Donc, on va suivre ça, on va voir ce qui va se passer, voir si elle va être extradée ou retournée en Chine. Je sais pas, hein, le Canada, si c'est au Canada, on est dans un beau petit pétrin, parce que là, tu fais quoi? T'écoutes les États-Unis qui sont tes voisins, tu sais, immédiats, ou t'écoutes la Chine avec qui tu fais beaucoup de transactions d'affaires, puis t'achètes beaucoup de choses de là, puis nous autres, on leur fournit probablement des choses aussi. Fait que je me demande, t'écoutes qui?
Ben, c'est ça. Ben, personnellement, présentement, avec le dirigeant qu'il y a aux États-Unis, je me casserais même pas la tête, j'irais du bord de la Chine. Mais, tu sais, il y a pas juste ça, là.
Ben, tu parles du président Donald Trump?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est
ça. OK, ouais, c'est ça. On verra bien ce que ça va donner, là. On va sûrement en entendre parler un moment donné. Voir ce que ça, s'ils vont l'extrader ou s'ils vont la retourner chez eux. On va peut-être avoir des petites pressions du gouvernement chinois sur le Canada pour la retourner. On verra. Deuxième nouvelle que j'ai, c'est ça va s'enchaîner. Là, c'est comme trois nouvelles qui vont ensemble, là, une après l'autre. Puis ça concerne tout AMD. AMD qui est en train de donner une ride pour son argent à Intel dernièrement, là. En sortant des processeurs qui sont... on en a parlé déjà, là, la série Ryzen, c'est des processeurs qui sont solides. Là, on ne parle plus de vieux processeurs Athlon là, qui avaient de la misère à compétitionner avec ce qu'Intel faisait. Il y avait Athlon, il y avait quoi aussi comme modèle?
Il y avait les Durons qui étaient l'équivalent, mettons, du Celeron du côté d'Intel.
Oui, c'était pas fort, c'était pas capable de vraiment compétitionner avec Intel. Puis Intel, depuis un bout de temps, ils sont comme sur un petit nuage, puis... Ça, ils sortent pas nécessairement de produits nouveaux. On fait du rafraîchissement de vieux produits. On améliore un peu, mais rien de trop grave parce que AMD n'était pas capable de suivre. Là, AMD arrive avec Ryzen, puis là, c'est comme chez Intel. Il y a comme des gens qui se sont réveillés, essayent de faire des choses, mais ne sont pas encore nécessairement capables de suivre.
Ouais, c'est ça. Je vois toutes les petites souris chez Intel là, partir à la course, puis il est là, ça travaille. Là, il faut qu'on fasse de quoi?
Ouais, il y a des rumeurs que l'année prochaine, là, ou peut-être au CES, Intel aurait de quoi à annoncer sur le nouveau processus sur 10 nanomètres, là, des plus petits processeurs, des plus petits ce qu'on appelle des die, là, mais ce qui est à l'intérieur du processeur, plus petit, donc là, on pourrait en mettre plus, on pourrait consommer aussi moins d'énergie pour avoir plus de puissance CPU, là. Présentement, Intel sont pognés, je pense, sur le 14 nanomètres ou sur le 12 nanomètres, puis ils ont de la misère à atteindre le 10, tandis qu'Intel sont rendus à du 7. Présentement, tu sais. Fait que Intel a pris AMD a pris le devant. Mais là, ce qu'on parle, c'est d'une nouvelle série de Ryzen qui serait la série 3000. Donc, là, présentement, on avait la série 1000 qui est les processeurs. On a Ryzen 3, 5 et 7. T'sais, on a du Ryzen 1200, du 1500, du 1600, 1700. Puis là, on a sorti dernièrement ce qui est le Ryzen 1.5, qui était la série 2000, donc le 2700, 2600. Il y a eu moins de processeurs dans la série 2000 qu'il y en a eu dans la série 1000, par exemple. On n'a pas autant de déclinaisons de processeurs. Tandis que là, on s'en va vers la série 3000, qui devrait sortir l'année prochaine. On va probablement voir ça. Il y a des grosses rumeurs qu'AMD va voler le show au CES cette année avec des annonces de nouveaux processeurs et nouvelles cartes graphiques. Donc on parle de nouveaux processeurs qui, selon ce que j'ai vu, là, j'essaie juste de retrouver mes chiffres, là, qui seraient capables d'aller, tu sais, comme un Ryzen 7 3700X, donc qui est l'équivalent du 1700X, 2700X, serait capable d'aller jusqu'à 5 GHz, puis ça, c'est sans trop pousser, là. Présentement, les processeurs Intel, on est capable de les pousser à 5 GHz, mais il faut overclocker, là. Fait qu'il faut vraiment aller jouer avec l'horloge du processeur pour surcadencer. Tandis que là, avec juste en utilisation normale, quand le processeur embarque dans son boost, il serait capable de monter par lui-même à 5 GHz, puis on va offrir d'autres modèles, le Ryzen 3 encore, Ryzen 5, Ryzen 7, et, oh, surprise, Ryzen 9. Parce que Intel a sorti un i9, donc il faut qu'AMD sorte quelque chose avec un 9 dedans aussi. Donc, c'est vraiment pour faire une mimique. Mais au moins, c'est clair pour le public. Tu le sais qu'un Ryzen 3 va compétitionner avec un i3. Tu sais qu'un Ryzen 5 va compétitionner avec un i5, un Ryzen 7 avec un i7, un Ryzen 9 avec un i9. Donc, au moins, pour le commun des mortels, c'est quand même assez clair. Si tu commences à nommer des noms un peu bizarres, ben là, OK, mais ça va bien compétitionner contre quoi? Tu sais, je veux m'acheter un i7, qu'est-ce qu'il faut que j'achète chez AMD? Ben là, c'est clair, tu suis les mêmes chiffres, puis ça va faire le travail. Ben,
c'est ça. J'essayais juste de regarder sur le mien, mon 1800X, c'était quelle architecture qu'il y avait, ben, pas architecture, mais c'était comme le nom de code qu'il y avait en arrière, parce que tout dépendant de la date qui a été construite, c'est comme plus la même révision. J'avais de la misère à me retrouver, là.
Ouais, c'est sûr que c'est... Ben, c'est des codes internes aussi, là, à un moment donné, là.
Mais ouais, c'est ça.
Mais c'est ça. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même des belles avancées technologiques. On s'en va sur un chip avec un processus de 7 nanomètres, donc quand même assez microscopique. Quand Intel a de la misère à faire du 10. Mais comme je te dis, il y a des rumeurs que Intel va sortir du 10 nanomètres l'année prochaine. Puis que Intel, AMD sont sur du 7 déjà. Mais j'ai hâte de voir. C'est une belle compétition. Puis la compétition, c'est bon pour tout le monde. La seule chose, c'est que côté prix-performance, vous êtes mieux d'aller avec du AMD. Si vous faites d'autres choses que jouer, Intel, présentement, là, au moment où on se parle, Intel a encore l'avantage pour les gamers. Pourquoi? Parce que le trois quarts des jeux, à part certains jeux comme Battlefield 5 qui vient de sortir, je pense Call of Duty 4, utilise plus qu'un cœur de votre processeur pour faire le travail. La majorité des jeux utilisent seulement un cœur. Puis en utilisation, en travail un cœur, présentement, en single core performance, qu'on appelle, Intel est imbattable. AMD sont pas capables d'y rejoindre. Mais aussitôt que vous travaillez un petit peu, vous faites du Adobe Premiere, vous faites des rendus vidéo, vous faites de la photographie, vous utilisez des applications qui utilisent multicœurs, AMD est imbattable. C'est AMD qui mène le bal. Allez voir des critiques, allez voir des benchmarks, là, des bancs d'essai. Vous allez voir AMD, quand on parle de travail multicœur dans un processeur, AMD est toujours au-dessus, sont plus rapides. Mais aussitôt qu'on parle d'un cœur, un programme qui utilise juste un core, c'est Intel qui gagne. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que pour la nouvelle série 3000, AMD va être capable d'avoir une meilleure performance à simple cœur et encore être meilleur en multicœur? C'est là que j'ai hâte de voir. Mais on parle... On parle que le Ryzen 3 3300X sortirait au CES, le Ryzen 5 3600X sortirait au CES, puis le Ryzen 7 3700X et le Ryzen 9 3800X sortiraient tout au CES. Après ça, on aurait Q3 2019, on aurait le 3300G. Donc, le Ryzen 3 3300G, donc on parle d'un processeur avec une carte graphique intégrée, du Vega intégré. Est-ce que ça va être du Navi intégré rendu là ou ça va être encore du Vega intégré? C'est l'équivalent pour ceux qui regardent le Ryzen présentement, ça serait l'équivalent d'un Ryzen 3 2200G, puis d'un Ryzen 5 2500G, si je me rappelle des chiffres, là. C'est les processeurs qui ont une carte graphique intégrée. Si vous achetez n'importe quel autre Ryzen qui n'a pas un G à côté, ils n'ont pas de processeur graphique à l'intérieur. Fait qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée. Il faut acheter une carte graphique à part absolument. Fait que si vous achetez un Ryzen, je sais pas moi, un Ryzen 3 3300X au printemps, ou quand un coup ça va être sorti, puis vous achetez ça avec une carte maîtresse, vous amenez ça chez vous, vous branchez tout ça, vous n'auriez pas de signal vidéo parce qu'il n'y a rien qui sort sur le signal vidéo de la carte maîtresse. Ça prend absolument de carte vidéo. C'est que ça vous prend un processeur avec un G dedans si vous ne voulez pas acheter une carte vidéo à part. Puis ça, on parle de troisième quart de 2019. Mais ça va être intéressant, j'ai hâte de voir. J'en ai un processeur avec un 2400, Ryzen 5 2400G. C'est mon serveur Plex qui roule là-dessus. Puis ça va super bien, j'ai rien à dire. Ensuite, il y a des rumeurs aussi que AMD s'en viendrait avec des nouvelles cartes graphiques. Ça doit être plus qu'une rumeur parce qu'on pourrait dire que c'est à peu près temps. Ça fait longtemps que AMD a un restant de pâté chinois qui réchauffe depuis trois générations. Là. Ça commence à être temps. On avait la série 450, 460, 470, 480 qui a été retouché, qui est devenu la série 550, 560, 570, 580, et puis là dernièrement ben, on a sorti une 590 qui est une 580 overclockée, donc surcadencée un petit peu avec des performances un peu meilleures, qui si vous n'avez pas de carte graphique, vous n'êtes pas capable d'attendre présentement, c'est quand même un deal pas si pire parce que présentement ils donnent trois jeux AAA avec, là, je pense que c'est le prochain Devil May Cry, la division de Division 2, puis il y a un autre jeu remastered, là, fait qu'il y a trois bons jeux qui vient avec. Fait que si vous n'avez pas de carte graphique, vous avez besoin d'une carte, puis vous voulez jouer à ces jeux-là, ça devient un bon deal. Pour le reste, ça vaut pas la peine d'être touché. Mais là, il y a des rumeurs d'une nouvelle architecture et de nouvelles cartes graphiques qui sortiraient et qui seraient peut-être annoncées au CES aussi. On va se garder une petite gêne, ces prix, par exemple. Il y a pas des performances, mais il y a des équivalences qui sont sorties avec des prix US tentatifs, mais personnellement, j'ai de la misère à croire à ça, mais on va voir, on va en parler, là, puis tu me diras ce que tu en penses. Là. Donc, on parle, et puis là, AMD joue la game que Microsoft a joué avec la Xbox 360, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais quand PlayStation a sorti la PlayStation 3, Microsoft devait sortir la Xbox 2. Mais Microsoft s'est dit, ouais, mais là, 3, c'est plus haut que 2 si PlayStation sort avec la PlayStation 3, puis nous autres, on sort avec la Xbox 2, on a l'air plus vieux que la PlayStation. Mm-hmm. Donc, les gens vont penser qu'on a une console moins performante que la 3. Donc, on va appeler ça 360 au lieu d'appeler ça Xbox 2. Puis là, ben, ok, présentement, on a la Xbox One qui fait aucun sens dans les noms non plus. Mais bon, c'est une bonne console, ça change rien. Fait que là, AMD joue à peu près le même jeu. C'est que présentement, Nvidia a des cartes de la série 2000. Hein, donc, 2070, 2080, 2080 Ti. Ben, AMD ont décidé d'appeler leur carte RX 360, qui va être la carte d'entrée, qui va être équivalent aux performances d'une RX 580 actuelle. Donc, la RX 580, c'est la carte performante abordable présentement. C'est pas... Il y a plus haut que ça. Il y a les Vega 56, puis il y a la Vega 64 aussi, qui est chez AMD, qui est les cartes encore plus performantes. Mais la RX 560, c'est la carte que, pour jouer en 1080p, ce que la trois quarts du monde font, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui joue en 4K, parce que les écrans sont chers et tout ça, là, mais ça te prend un bon processeur, ça te prend... Fait que les gens sont plus RX 580. Une RX 580, dans la série Nvidia, là, ça équivaut à peu près à une... Je dirais une 1060 6 GB. On touche pas au 1070, on touche pas au 1080 avec ça. Faut aller dans le Vega 56 puis dans le Vega 64 pour atteindre à peu près les performances des 1070 1080. Puis là, on parle pas de la nouvelle série 2070 2080, là, AMD pas capable de compétitionner avec ça. Donc,
pas encore.
Non, pas encore. Donc, la RX 3060 serait équivalent à une RX 580. Là, on parle d'un prix d'entrée de gamme de 130$ US. Avec 4 GB de GDDR6, donc la nouvelle mémoire, un TDP, fait une demande énergétique de 75 watts. Donc, c'est une carte qui va être intéressante pour les gens qui ont un petit un petit PC avec un power supply, tu sais, pas vraiment puissant, qui n'ont pas nécessairement le petit connecteur à 6 pins extra pour une carte vidéo, parce qu'elle, en consommant 75 watts, est capable de se fournir en courant directement de la fente PCI. Fait qu'elle n'a pas besoin d'une prise de courant de plus. Donc, ça va être une carte qui va être quand même assez performante parce qu'elle va performer comme une 580. Puis une 580, ça joue présentement tous les derniers jeux AAA à élevé ou à ultra dans certains jeux. Là, c'est une bonne carte graphique quand même. Donc là, on parle d'une carte qui va être très performante puis qui n'aura pas besoin de courant de plus. Fait que ça va être fantastique pour les gens qui ont des PC plus bas de gamme mais qui veulent augmenter comme leur carte vidéo pour être capable de jouer une petite coche plus haut à leur jeu mais qui n'ont pas une fortune à dépenser sur leur carte. C'est quelque chose que présentement, dans la nouvelle série, Nvidia ne fournit pas. Il n'y a pas de cartes qui ont pas besoin d'une prise de courant de plus. Ils ont tous besoin d'être branchés directement sur le power supply pour avoir du courant de plus parce que ça demande plus d'énergie. Deuxième carte, qui serait, ça c'est sur le ce qu'on appelle aussi sur l'architecture Navi. Hey, listen! Navi 12. Donc j'imagine 12 veut dire peut-être 12 nanomètres, ou peut-être pas, là, mais ça serait peut-être logique, mais ça c'est du spéculation de ma part. L'autre, ça serait AMD 3070. Hein? 70. Tu sais, petit message là-dedans.
La suite d'SD.
Ouais, 200$. 8 GB de GDDR6, donc la nouvelle mémoire DDR6, 120 watts de consommation, donc ça va y prendre une prise de courant extra, équivalent à une Vega 56. Là, on commence à parler performance équivalente à une 1070 de chez Nvidia, peut-être une 1070 Ti en surcadençage. Donc ça commence à être intéressant. Pour 200$, on commence à parler d'une carte qui va être hyper intéressante, mais comme je disais au début, les prix, c'est là-dessus que j'ai un bémol. Je ne crois pas qu'on va avoir ces prix-là. Je pense que AMD va être un peu plus gourmand que ça, parce qu'ils peuvent l'être là. Puis la dernière pour l'instant, c'est une Radeon RX 3080, hein? 60, 70, 80, on suit-tu assez Nvidia là-dedans? 250$, 8 GB de GDDR6, 150 watts de consommation en TDP, équivalente à une Vega 64 plus 10-15%. Donc, on serait, Vega 64, on serait à peu près équivalent à une 1080 Ti chez Nvidia, qui est à peu près l'équivalent d'une 2070 chez Nvidia à peu près la moitié du prix. Puis c'est là que le bas blesse un peu, puis que j'ai de la misère à croire ça, c'est que je peux pas croire que AMD vont sortir des cartes qui sont performantes, des cartes qui vont être intéressantes pour le public à ce prix-là, parce qu'ils pourraient les vendre plus cher, faire plus d'argent. Mais si tu veux ramasser le marché, vends ça pas cher, puis tu vas ramasser le marché.
Exact.
Parce que moi, présentement, là, j'ai la carte vidéo que j'ai dans mon ordinateur, c'est correct, c'est une 1060 3 GB. C'est pas une vraie 1060. C'est juste plate, là. Puis quand je l'ai acheté, j'ai pas fait assez de recherches. L'architecture est pas identique. C'est pas la même chose. C'est pas juste une 1060 avec 3 GB de moins. Là. C'est pas une 1060 6 GB avec juste 3 GB de moins. Il y a d'autres choses de moins dans la 1060 3 GB, puis Nvidia la met sur le marché comme une 1060, mais pour de vrai, c'est comme une 1050 Ti++, tu sais. Fait que c'est pas vraiment une 1060, mais bon, en tout cas. Fait que ça serait vraiment intéressant si AMD sort ces cartes vidéo-là pour les prix annoncés. Parce que là, ajouter 30, 40, 50$ au prix canadien, puis ça allait vous ramasser avec une carte à 300$ qui est l'équivalent d'une 1080 Ti ou d'une 2070. Moi, j'achète, là.
Oui.
C'est ma prochaine carte vidéo, c'est clair, là.
C'est la force d'AMD de ce temps-là. On en parlait justement avec, je pense que c'est dans le dernier show techno qu'on a fait, avec les nouveaux processeurs d'Intel, qui sont pas tellement plus performants, mais qui sont hors de prix, puis à performance égale, AMD sur les processeurs sont souvent la moitié moins chères
Ouais.
ou beaucoup moins chères. Puis là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose avec les processeurs graphiques, de sortir des équivalents pour presque la moitié du prix. C'est là que ça va devenir intéressant.
Très, très intéressant. Puis AMD, si vous vous cherchez présentement là, si vous êtes en train de penser de vous monter un ordinateur, moi j'attendrai peut-être après le temps des fêtes, juste pour voir tout ce qui va sortir là. Puis si vous voulez vous acheter un moniteur, des choses comme ça, les moniteurs FreeSync, qui est le système d'AMD pour c'est la synchronisation de l'image avec l'écran là, puis la carte vidéo puis l'écran se synchronisent ensemble pour essayer d'empêcher ce qu'on appelle du screen tearing. So, des fois, si vous jouez à un jeu puis vous voyez comme un déchirement dans votre écran, on appelle ça du screen tearing. C'est la carte vidéo puis l'écran qui sont pas capables de se synchroniser là, sont pas capables de s'entendre sur à quelle vitesse qu'ils vont démontrer l'image à l'écran, puis ça fait ce qu'on appelle du screen tearing. Avec un écran FreeSync où il y a l'équivalent chez Nvidia qui est quoi? Nvidia, c'est du G-Sync. Les écrans G-Sync sont extrêmement chers, par exemple. Puis un écran FreeSync, le 1080p, des fois c'est le même prix qu'un écran normal là, qui n'est pas FreeSync. Puis ça va avec ça, avec une carte AMD, la carte et l'écran vont se parler, puis vont se dire, OK, l'image va être à tel, t'sais, à telle image par seconde. On est à 60, on est à 40, faut dropper. Ils se synchronisent, fait que ça enlève ce qu'on appelle le screen tearing, ce qui a l'air du déchirement dans l'image. Fait que ça c'est un gros plus aussi. C'est beaucoup moins cher, comme je disais, d'acheter un écran qui est compatible avec le système d'AMD qu'avec le système de Nvidia qui est très très cher. Donc AMD, s'ils sont capables de faire ça, de sortir les processeurs aussi performants qu'on en parlait tantôt, avec du presque 5 GHz sans même surcadencer, imaginez surcadencer un peu, on va atteindre du 5.2 peut-être assez facilement avec un bon cooler ou liquide. Ben, puis là, tu sors des cartes vidéo performantes à un prix que le monde peut se payer. J'ai l'impression qu'ils vont ramasser le marché. Mais j'ai hâte de voir. Moi, c'est ça que j'attends vraiment, là. Des fois, j'ai le goût de changer la carte vidéo dans mon PC. Je trouve que c'est pas. Certains jeux tirent un peu de la patte, mais je me suis dit, tu sais, je vais attendre. Pourquoi dépenser là si dans 3-4 mois, il sort quelque chose de mieux à un prix plus intéressant que ce qui est là présentement, là. Ça a aucun sens de dépenser présentement.
C'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai une
Ouais.
970.
Qui est pas une mauvaise carte, là.
Non, c'est ça, elle fait encore la job.
Ouais.
Écoute, j'ai pas vraiment de jeu à très récent, mettons, j'ai peut-être pas de jeu des 2 dernières années. En avoir, peut-être que là, je verrais plus la différence, mais pour l'instant, ça fait la job en masse.
Ouais.
Mais c'est ça, je regarde pour la changer, puis c'est justement ce que je fais. Je vais attendre de voir ce qui va sortir. Je vais-tu aller, tu sais, peut-être vers une 2060 ou une 20. Ouais, c'est ça. La 2060, qui n'est pas encore sortie, qui va peut-être être un prix abordable, mais qui va permettre de faire du RTX dans les jeux à venir qui vont pouvoir le supporter ou.
La 2060, Steve, elle fera pas d'RTX. La 2070 a de la misère à faire du RTX. La 2080 a de la misère à faire du RTX. Il y a juste la 2080 Ti qui est capable de faire du RTX. RTX, on parle du ray tracing, c'est la manière que la lumière frappe les objets puis ça reflète, là. C'est géré par la carte vidéo. Quand ça marche, ça donne des résultats incroyables, là. Mais la 2070 n'est pas capable de le faire. Ils ont été capables de le faire dans Battlefield 5. C'est le jeu qui a été comme le plus poussé pour le ray tracing. Puis ils ont commencé à faire du benchmark. Puis ton images secondes descendaient presque de moitié
Shit, hein?
si quand tu mettais quand tu activais la RTX. Puis ça, c'est sur une 2080. La 2080 Ti, c'est un peu mieux. Mais la 2070, là, elle a pas le oomph pour faire ça, là. Fait que si tu achètes une
Ouais.
2070 pour faire du RTX, t'es aussi bien pas te l'acheter parce que ça sera pas
Puis
une
tu vas
belle
payer pour
expérience.
rien, moi, ouais, c'est ça.
Le RTX, c'est une super belle technologie. Ça va être merveilleux dans la prochaine génération de cartes Nvidia. Présentement, là, si tu veux acheter une carte Nvidia juste pour faire du ray tracing, là, sors-toi ça de la tête. Ça vaut même pas la peine. À moins que tu aies 1 200 piastres à t'acheter une 2080 Ti, là. Mais oui, les pilotes vont s'améliorer. Oui, ça s'est amélioré un peu avec des nouveaux pilotes. Puis les jeux sont optimisés. Mais regarde, Battlefield 5, ils ont optimisé le jeu. Ils ont droppé le FPS pour que ça paraisse plus beau. Fait, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été gagnant. Là. Je pense que Nvidia s'est un peu planté avec le lancement de la série 2000. Là. Je pense qu'il aurait pu se retenir un peu, peut-être attendre un petit peu plus longtemps, puis sortir plus tard.
Avec une vraie nouvelle génération, parce qu'on l'a vu au niveau des performances de la carte en dehors du RTX, les performances sont similaires à la série 10.
Oui, il n'y a pas beaucoup de différence. 60,
70, 1080.
Non, la 2080 Ti, c'est présentement la carte grand public, là, puis juste grand public avec des gros guillemets, parce que c'est une carte à 1200$, là, mais c'est la carte grand public la plus puissante sur le marché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter à 1200$? Pas en tout. Parce que tu peux avoir une 1080 Ti qui va être proche pareil à ces performances-là. Puis si tu joues en 1080p sur un moniteur, tu as zéro besoin d'une 2080. Tu vas payer ça la moitié du prix à une 1080, 1080 Ti. Il n'y a aucune raison de t'acheter une 2080 Ti ou même une 2080. 2070 à la limite, si tu rêves pas de faire du RTX, c'est quand même pas si pire à 600$. Mais tu peux avoir une 1070 ou une 1070 Ti pour à peu près 400-500$. Là. Fait que ouais. C'est vraiment de regarder. Mais personnellement, là, même avoir à m'acheter une carte vidéo aujourd'hui et avoir de la misère à attendre, là, j'attendrai de voir ce que AMD va nous sortir. Le CES, c'est au mois de janvier. Là, fait qu'on, c'est comme demain. Là, on va le savoir ce qui va se passer. Donc, c'est pas mal ça. Mais ça a l'air intéressant. Comme je disais, je doute un peu des prix. Là. D'après moi, ça va être plus haut que ça. Mais si vraiment AMD a le culot de sortir ça à ce prix-là, ils vont ramasser le marché, ils vont faire mal à Nvidia, ça sera aucun bon sens.
Surtout si c'est prouvé qu'ils sont aussi performantes.
Ouais, bon, on craint pas la journée que les cartes vont sortir. Tu vas avoir plein de YouTubers qui vont faire des bancs d'essai, qui vont nous sortir des chiffres, on va le savoir comme le lendemain.
Ouais, c'est sûr.
Ça va être assez rapide, là. Mais en regardant ce qu'AMD fait avec les processeurs dernièrement, j'ai comme un peu confiance en eux autres pour les cartes graphiques, j'ai l'impression qu'ils vont nous impressionner. Parlant de AMD encore, rumeur, la prochaine PlayStation, qui serait la PlayStation 5, aurait un processeur AMD à l'intérieur et un GPU, donc une carte graphique Navi. Donc, les processeurs, exactement de quoi on parlait, v'là pas longtemps, v'là quelques secondes, les mêmes processeurs, probablement de la série 3000, peut-être, ou du 2000, très très puissant. Puis la série Navi dans les cartes graphiques. Donc, normalement, les consoles, puis je suis un joueur console, là, fait que là, montez pas aux barricades les joueurs de console. Là. Une console n'a pas besoin d'une carte graphique aussi performante qu'un PC. Parce que, oui, nos consoles, on les aime. Oui, c'est beau sur une télé. Oui, c'est... Mais jamais, au grand jamais, un PC au maximum de son rendu de qualité va battre une console à plat de couture. C'est clair. Oui, à cette heure, on fait du 4K. Oui, c'est beau. Mais normalement, un PC est capable d'aller chercher la qualité d'une console assez facilement. Là. Puis, donc, tu sais, ça n'a pas besoin d'une carte graphique dernier cri. Une console, normalement, on va avec milieu de gamme. Fait que d'après moi, on va voir un Ryzen 5, probablement un Ryzen 5 haut de gamme. Ou un 7 bas de gamme là-dedans. Là. Fait que d'après moi, un Ryzen 5 3600X ou un Ryzen 7 3700 ou 3700X. Quoique le 3700X, c'est le Ryzen 7 haut de gamme. Là. Soit un des deux. Puis d'après moi, la carte graphique qu'on va voir là-dedans, ça va être une carte graphique milieu de gamme. Là. D'après moi, je dirais la 3070, qui est l'équivalent d'une Vega 56. Fait que ça va nous donner à peu près la qualité rendue graphique d'une 1070, 1080. D'après moi, on est correct avec ça. S'ils veulent aller au maximum une 3080 pour aller chercher probablement ce que Nvidia peut faire de mieux avec sa 2070, là. J'ai hâte de voir un peu. Ça pourrait être ça. Je veux dire, si vraiment il y a une si petite différence de prix que ça entre les cartes, il y a 50$ entre une 3070 et une 3080. Puis c'est sûr et certain que Sony vont en acheter plus que 3. Donc, ils devraient être capables de se négocier un prix qui a de l'allure.
Sûrement, oui.
Mais d'après moi, c'est ça qu'on va voir. Je dirais probablement Ryzen 5 3600X, peut-être avec un ARX, soit une 3080, soit une 3070. Là, ça ferait probablement en masse le travail pour une console de jeu. Mais ça, on verra. Fait que ça serait bien pour AMD de ravir le marché de la PlayStation. Ça donne un petit velours, mettons. Ça serait bien. Bon, on va passer à la prochaine nouvelle. Tu vas nous parler d'un nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8C, qui serait une puce que Qualcomm veut sortir pour venir un peu embêter, eux aussi, Intel.
Effectivement, c'est des processeurs, c'est le 8CX qui devrait, je cherche mes notes aussi, hein. Comme tu disais justement, pour les PC, pour tout ce qui est, ce qu'ils veulent essayer de faire avec celui-là, en gros, là, c'est de ramener un portable avec des performances de mobile, si on veut.
OK. Ouais. Parce que pour les gens qui ne savent pas, là, les processeurs Snapdragon de Qualcomm, c'est ce que vous avez dans la majorité des téléphones Android.
Ouais.
Fait que si vous avez un téléphone Android, la chance que vous ayez un processeur Qualcomm Snapdragon, peu importe la génération, là, parce que c'est un peu comme les processeurs, tu sais, un processeur qui sort à chaque année, là, mais peu importe la force du processeur, c'est probablement un processeur Snapdragon de Qualcomm que vous avez dans votre téléphone. C'est le processeur pour les mobiles d'Android.
C'est ça, puis je dirais que probablement que la majorité marche avec le 850, puis c'est en partie avec celui-là, du moins, qui font la comparaison. La puce gravée en 7 nanomètres va avoir le processeur Cryo 495 octa-core. C'est drôle, ils ont comme...
8 cœurs. 8
cœurs. Ouais, c'est ça, 8 cœurs. J'avais comme dans le dé qu'ils ont franglicisé le terme.
Ouais, c'est ça
m'a un peu embêté. Puis un processeur graphique Adreno 680. Ils disent que ça va donner d'une puissance graphique deux fois plus rapide que ce qui se fait pour le 850 présentement.
OK.
Alors, qui est quand même une grosse amélioration. Tu sais, quand tu dis que tu sors un processeur qui est deux fois plus rapide, c'est quand même beaucoup. C'est
quand même une belle avancée.
Puis, sur papier, ce type de puce-là, ça équivaut à la série U d'Intel qui équipe les MacBook Pro de dernière génération.
Ouais.
Donc ils viennent aussi concurrencer les performances que tu avais aussi avec les MacBook Pro. Puis, comme tu disais, non seulement ils viennent talonner un peu Intel, mais je pense que ça va peut-être venir talonner aussi un peu les users de MacBook parce qu'ils allaient avec ça. Oui, c'est plus cher, mais dans certains cas, c'était plus performant aussi.
Ouais. Ouais, mais c'est l'écosystème Apple que les gens aiment aussi.
Ouais.
Tu sais, c'est solide, ça fonctionne bien, ça bug pas nécessairement, tu sais, ça bug un peu moins que Windows, les applications sont performantes, il y a tout ce que tu veux à peu près en partant sur le portable. C'est un écosystème. Fait que c'est sûr que certain que ça va prendre plus qu'un processeur pour faire passer les gens de Apple à Windows, là. Mais il y en a présentement. Il y a un PC, je pense, qui est Windows on ARM présentement, fait qu'il roule la version de ce qu'on appelle Windows on ARM. C'est Windows 10 sur un processeur ARM. Puis c'est vache. Puis c'est vraiment pas rapide. Donc c'est ça que Qualcomm veut essayer d'aller chercher, c'est qu'un processeur qui va être capable de compétitionner avec les i5 de ce monde. Qu'on retrouve dans les MacBooks puis dans plein de PC de table ou même portable, là. Donc ça serait quelque chose de bien. Le seul problème, ben, c'est la compatibilité des applications qui va être un problème, parce que présentement il n'y a pas d'application 64 bits qui roule sur Windows 10 on ARM, c'est des applications 32 bits. Puis la majorité des applications dans le magasin Windows sont du 64 bits. Donc, il y a beaucoup d'applications qui ne fonctionnent pas. Okay. Mais ça, ça va être de... Tu sais, si un... c'est un peu comme... c'est un peu comme la vieille joke des saucisses à grade. C'est plus que le monde en mange, plus qu'il y en a, puis plus qu'il y en a, plus qu'il y en a, plus le monde en mange. Là. C'est un peu ça. C'est que si on se ramasse avec un marché de PC qui roule sous Windows 10 avec ARM, ben les créateurs d'applications vont être tentés de convertir leurs applications ou les écrire natifs pour le processeur. Mais...
Exactement.
Ouais.
Puis on parle aussi d'une autonomie de plusieurs jours sur des machines légères, donc des machines, on va dire, entrée de gamme, là, tu sais, ou aux performances, pas nécessairement en mode d'économie d'énergie,
hein. Ben ouais.
C'est peut-être un peu excessif, mais tu sais, plutôt un usage normal qui va ramener sur plusieurs jours, donc qui ramène aussi, comme on disait, tu sais, qui veulent essayer de se rapprocher de ce qui se fait au niveau de la mobilité cellulaire, tu sais, qu'on a des piles. En fait, si elle est moindrement utilisée, qui peut facilement faire un 12-15 heures. Hein.
Ouais, bah oh oui. Normalement, ton téléphone Android dure la journée. Tu sais, à moins d'utilisation extrême, tu prends des photos, tu prends des vidéos, tu joues à des jeux, tu utilises le GPS, ta batterie va se vider assez rapidement. Là, mais en utilisation normale, tu pourrais. Peut-être faire au moins une journée complète, des fois peut-être deux jours, une journée et demie, mettons, sans le charger. Mais là, tu parles d'une pile qui va avoir comme quatre fois la grosseur d'une pile de cellulaire, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, tu parles de, tu sais, peut-être deux jours d'autonomie en utilisation régulière, pas trop poussée. Ça serait intéressant pour certaines personnes, là. Puis ça va être ultra léger aussi, parce que c'est des processeurs qui sont pas nécessairement gros. On va mettre là-dedans quoi, un SSD ou un NVMe, tu sais, un disque dur qui est comme une petite barrette de mémoire. Là, ça mm-hmm. va être tout petit. Ça va être merveilleux. Comme s'ils peuvent avoir la rapidité d'un PC qui roule comme sur un Intel i5 ou quelque chose comme ça. Là.
Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent d'un gros PC ou d'un portable. Un peu plus haut de gamme dans quelque chose qui pèse à peu près rien, qui va se trimballer un peu partout.
Oui, parce que Intel ont de la misère dans ce marché-là. Ça fait des années qu'Intel ont de la misère dans le marché du mobile, marché du laptop, marché du ultra portable. Là, Intel a des problèmes à compétitionner et à sortir des produits intéressants. Puis Apple a sorti des nouveaux PC dernièrement, mais c'est quasiment les mêmes processeurs que de la dernière génération parce qu'Intel n'a rien sorti d'intéressant pour Apple à mettre dans leur nouveau PC. C'est pour ça qu'Apple, même Apple, pense à mettre Intel de côté puis à faire leur propre processeur. Là.
Mm-hmm.
Fait que ça va pas bien chez Intel. Là. Ils sont mieux de profiter encore de leur dominance. Ils font des milliards et des milliards par année. Là. C'est encore une compagnie viable, là. Mais c'est plus ce que c'était, là. C'est pas... Mais il y a des rumeurs qu'ils vont avoir des processeurs, des cartes graphiques qui vont sortir d'Intel dans les prochaines années, là. Fait qu'on va avoir un troisième compétiteur entre Nvidia et AMD, va avoir Intel aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Aucune idée.
Mais... Ouais, c'est ça, ouais.
Mais il faut qu'ils se diversifient à un moment donné parce que sinon, ça fonctionnera plus. Ils perdent du marché du processeur avec ARM puis avec AMD, là.
Non, c'est ça.
Qualcomm, Qualcomm AMD.
Ça fait pas des mauvais produits. Ils sont juste pas capables d'équivaloir ce qui se fait ailleurs.
C'est ça, puis ils sont pas capables d'innover autant que les autres sont capables d'innover. Fait que c'est le prix que tu payes pour t'être assis longtemps sur tes lauriers.
Ouais.
J'imagine. Ouais. Mais ça va être intéressant, j'ai hâte de voir.
Mm-hmm.
Puis on va sûrement voir un paquet de portables sortir. Probablement que Microsoft va l'utiliser dans des Surfaces ou des PC de ce genre-là, puis après ça, on va voir
oui, parce que
HP puis les autres là, embarqués. Là.
C'est un des processeurs, je pense que c'est un des premiers processeurs qui est certifié Microsoft.
Oui, il est certifié Microsoft. Ouais. Microsoft est intéressé à faire affaire. Puis il y a une petite bisbille depuis des années entre Microsoft et Intel, puis ils font pas... Microsoft fait pas affaire avec Intel parce qu'ils s'aiment, puis c'est l'amour, puis c'est les gros câlins, là. Ils font affaire avec Intel parce que c'était, dans le temps, le meilleur pourvoyeur de processeurs sur la planète, là. Mais c'est en train de changer. Fait que...
Ouais.
On va probablement voir... Il y a des rumeurs qu'on va bientôt voir des PC Microsoft qui pourraient rouler sous AMD. là, qui pourrait rouler sur ARM aussi. Apple veut lâcher Intel. Il y a beaucoup de compagnies qui vont à processeur équivalent ou un peu mieux, vont peut-être lâcher Intel pour aller vers quelqu'un d'autre à un moment donné. C'est écrit dans le ciel. Fait qu'il va falloir qu'Intel se replace. J'ai rien contre Intel. J'ai eu des PC Intel la majorité de ma vie. Là. J'ai eu un PC Intel, un PC AMD quand j'étais jeune, puis ça n'a pas été une belle expérience. Les pilotes n'étaient pas compatibles, puis il y avait plein de problèmes de stabilité, puis ça plantait tout le temps, puis tu avais un processeur Intel, puis ça roulait bien, c'était beaucoup mieux. Mais c'est plus ce que c'était. Là. AMD, ils ont vraiment repris du poil de la bête, puis Intel ben, est en train de perdre le poil qu'Intel est en train, qu'AMD est en train de ramasser. C'est un peu plate. Non, mais j'ai hâte de voir, ça va être intéressant. On parle pas de 5G, par exemple. J'aurais pensé qu'on parlerait de connectivité 5G. On parle juste de 4G.
Ouais, et attends, tu peux laisser me faire un texte. J'ai de quoi là-dessus? Ça dit compatible avec les réseaux 5G.
OK. Mais ça, 5G, c'est la prochaine technologie. Il n'y a pas de gros détails sur 5G en partant. Là.
Mais c'est, ouais, c'est ça. Ça gère la connectivité. C'est un Quick Charge 4+, qui gère la technologie 4G. Qui a des débits théoriques de 2 gigabits en téléchargement puis 316 mégabits en upload.
Ouais.
Okay, vive les Français. Ouais, c'est ça. Téléchargement qui est complètement traduit puis upload.
Ouais, c'est ça.
Téléversement, eux autres, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Tu veux pas téléverser, tu veux uploader. Ouais, mais 2 gigabits, c'est quand même intéressant. Là. C'est quand même rapide. Mais ça, la technologie 5G, c'est vraiment la prochaine chose là, qui va. Pour les toujours connectés, là, le 5G, c'est les gens qui vivent dans le cloud, là, qui vivent dans le nuage, qui ont leurs documents dans le nuage, puis qui travaillent beaucoup avec ça, là, vont être aux anges avec le 5G, parce que selon les rumeurs, c'est aussi rapide qu'un réseau local.
Ah, c'est ça, c'est le Snapdragon 855 qui rouvre la voie au premier smartphone compatible avec le 5G. Okay. C'est même pas le 8CX.
Ça va être une autre technologie plus tard. Là.
Ouais.
Mais ça va être intéressant pareil, la technologie est toujours en mouvement. OK, on va y aller. Il reste 3 petites nouvelles. On va faire ça moyennement rapidement. Ça fait déjà comme 50 minutes qu'on jase. Nvidia, on en parlait tantôt avec les 2080, 2070, a sorti une nouvelle carte vidéo. Sors ton cash. Nvidia Titan RTX, qui est la carte graphique qui n'est pas faite pour les joueurs. Par exemple, c'est pas une carte de gaming, c'est une carte de productivité. C'est une carte pour les gens qui ont besoin de rouler des applications d'intelligence artificielle ou des applications de rendu graphique assez poussées. Donc, les créateurs, c'est vraiment une carte pour les compagnies et non pas les cartes pour monsieur et madame tout le monde pour jouer à Battlefield 5. Là. La première raison, c'est que la carte vaut 2 500 $. Donc, c'est
juste
ça. Ouais, c'est le double d'une 2080 Ti. Mais bon, c'est probablement la carte la plus poussée sur le marché présentement, si on ne va pas la carte, ce qu'on appelle enthousiaste, la carte de monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est vraiment la plus puissante, mais c'est pas comme le double d'une 2080 Ti, là, mais c'est quand même assez puissant. On parle de 24 gigs de DDR6 dessus. Même rapidité de mémoire qu'une 2080 ou qu'une 2070. On parle de quoi? Le bande passante mémoire 372 gigabits par seconde. On parle d'une consommation de, attention, 280 watts. Donc, tu en achètes 3-4 et tu coupes des 2x4 sur ton... On peut plus couper des 2x4 sur notre compteur électrique à cette heure parce qu'ils sont tous numériques. Mais c'est ça. C'est une carte qui est ultra puissante mais qui n'est pas faite pour toi, le gamer, qui veut jouer chez toi. Donc, enlève ça de ta liste de Noël. Si tu veux quelque chose, c'est une 2080 Ti ou une 2080 ou une 2070. Ou si tu es censé, peut-être une 1070 ou une 1070 Ti. Ou encore mieux, demande des cartes cadeaux et attends l'année prochaine. Donc, mais c'est ça. C'est pas pour le grand public. Mais c'est quand même, tu sais, c'est la carte pour les gens qui travaillent et qui ont besoin de puissance pour travailler là, des rendus graphiques, montage vidéo et tout ça. Ça va être très intéressant pour eux. Mais il faut pouvoir payer 2 500 $.
Ouais, c'est ça. Certains producteurs de films vont sûrement marcher avec ça. Hein?
Ah, sûrement. Mais pas nous autres. mes petites vidéos YouTube se montrent très, très bien avec ma 1063G. J'ai aucun problème avec ça. Ben, j'ai surcadencé ma 1060 3G, fait qu'elle roule quand même un petit peu mieux qu'elle roulait avant. Un petit peu plus performante. Autre histoire, avant-dernière, Microsoft qui a décidé de peut-être finalement enlever son furteur Edge de Windows 10. Donc, il y a une grosse rumeur qui dit que Microsoft va lever le drapeau blanc pour Edge. Ils ont bien essayé de reprendre le marché à Google, puis le Chrome, puis à Firefox, puis ça ne fonctionne pas. Le Edge, c'est comme le troisième furteur le plus utilisé sur Windows, mais c'est comme 3% du marché, là. C'est Chrome et Firefox qui a le dessus. Donc, Microsoft serait en train de plancher sur un nouveau furteur qui serait basé sur Chromium, qui est Chrome. Donc, serait comme, tu sais, compatible à tous les petits ajouts, ce qu'on appelle les plugins qui sont disponibles sur Google Chrome. On pourrait les installer sur le nouveau furteur de Microsoft. Est-ce que le nom Edge va disparaître? Peut-être pas, parce que Edge, c'est deux choses. Puis la nouvelle dit Microsoft va abandonner Edge, mais Edge, c'est aussi le langage HTML. C'est Edge HTML. Puis HTML, c'est le langage web. Donc, c'est ce qui forme vos pages en arrière, là. C'est du HTML, c'est le nom du code. Et puis, on appelait ça le Edge HTML. Donc, Microsoft laisserait tomber le Edge HTML et s'en irait vers un finalement Chrome comme base pour son prochain furteur. Est-ce que ça va garder le nom Edge? Possiblement. Est-ce qu'ils vont nommer ça sous un autre nom? Possiblement. S'ils nomment ça sur un autre nom, attendez-vous à ce que ça soit un nom avec un E dedans, parce qu'on a appelé ça Edge pour garder la familiarité avec le E d'Internet Explorer. Hein? L'Internet Explorer, le logo, c'était un E. Là, on a mis un E aussi, mais un bleu un peu plus foncé, un bleu un petit peu différent, mais c'était quand même comme, tu sais, on pouvait comme remarquer que ça se ressemblait, donc les gens voyaient ça puis savaient ce que c'était. Donc, Microsoft va probablement garder la même chose, mais avec un furteur basé sur Chrome. Chrome, c'est très sécuritaire, c'est bien développé, c'est un furteur qui est solide, donc on peut croire que c'est une bonne idée pour Microsoft de s'en aller vers ça. Et puis ça va faciliter le travail aussi aux développeurs, parce que là tu vas avoir un furteur qui va être majoritaire puis qui va pouvoir être utilisé comme sur différentes plateformes, là. Donc ça devrait être intéressant. Le nom de code du projet présentement, c'est Anaheim, comme les Ducks d'Anaheim, pour ceux qui suivent le hockey. Mais c'est ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est une rumeur assez persistante que j'ai entendue et lue à plusieurs endroits. C'est peut-être les nouvelles qui reprennent l'autre nouvelle, là. Ça a peut-être parti d'une place, puis là, tout le monde la reprend. Mais je l'ai vu à quelques endroits différents. Et ça devrait apparaître probablement dans la prochaine grosse version de Windows 10, qui devrait être 19.03. Donc, mars 2019.
Mais, ça va-tu vraiment être mars?
Ben, c'est ça, j'allais dire. De la manière que c'est parti, on devrait voir ça au mois de juillet. Donc, mais non, ça va être intéressant. Ça. Edge, j'ai jamais vraiment utilisé Edge. Je trouvais ça encombrant. Je sais pas. J'aime bien Chrome. J'utilise aussi Firefox sur un autre PC. Puis, c'est deux furteurs que j'aime bien. Edge, je me suis jamais habitué. Puis, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait aussi qu'à chaque fois j'essaie de faire quelque chose, ils me disent « Ah, mais est-ce que t'as déjà essayé Edge? » Puis moi, dire « Ça m'intéresse pas. » Tu sais, quand quelqu'un essaie de me pousser quelque chose dans la gorge que je veux pas nécessairement, j'ai comme pas le goût d'aller l'essayer par après. Ouais. Puis, tu sais, Microsoft, là, si t'installes un PC flambant neuf, Windows 10, tu réinstalles Windows 10, tu installes Chrome, puis là, Chrome te demande « Est-ce que tu veux que Chrome soit ton furteur par défaut? » Tu dis « Oui », puis là, il t'ouvre la partie dans Windows 10 pour aller changer ça. Puis là, tu cliques dessus pour le changer vers Chrome. Puis là, Windows 10 te dit, mais attends, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Chrome et Edge est plus rapide que Chrome. Veux-tu vraiment faire le changement? T'sais?
Ouais.
Là, j'y aurais peut-être repensé, mais là que tu essaies de me pousser ça dans la gorge, non, je suis sûr de mon coup. Fait que, non, c'est pas c'est pas vraiment apprécié. Là. Fait que j'ai hâte de voir ce que le nouveau Furteur va donner. Et peut-être, sait-on jamais, je vais m'en aller vers le nouveau Edge basé sur Chromium. T'sais? Parce que Chromium, c'est de base. Tu peux avoir Chrome sur ou Chromium sur Linux. Tu peux avoir ça sur Raspberry Pi. T'as le Furteur Chromium. Fait que c'est un Furteur qui est un peu partout. Là.
Puis il y a plusieurs Furteurs qui utilisent qui sont basés là-dessus. C'est ça. Je pense à Brave. Parce que j'ai eu à chercher un navigateur qui supportait encore les plugins Adobe.
OK.
ouais, c'est ça.
Puis grand monde qui supporte ça parce que les plugins Adobe, c'est comme le pire trou de sécurité que tu peux avoir sur le marché. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est un besoin. Fait que...
C'est ça, on utilise un logiciel présentement qui supporte des formulaires Adobe. J'avais comme pas vraiment le choix de trouver quelque chose parce que le dernier, je pense que Chrome a été le premier à l'enlever, après ça Firefox. Puis la dernière version de Firefox qu'il supporte, c'est 52. Puis on est rendu à 57, je pense.
Quelque chose comme ça, ouais.
Bref, à toutes les fois que, même si tu disais de pas te mettre à jour, il finissait tout le temps par nous mettre à jour, puis là, on t'a pogné que ça marchait plus, puis bon.
Bref, j'ai une limite de temps que tu peux repousser. Là.
J'ai cherché mille et un Furteurs, puis je suis tombé, entre autres, sur Brave, que je risque peut-être d'utiliser plus souvent, parce que c'est un navigateur qui est 100% anonyme de base.
OK, fait qu'il n'y a pas de cookies, pas rien. Là. Pas de...
C'est ça, ouais. Fait que c'est sécuritaire, il n'y a rien, il n'y a pas de traces qui restent nulle part, puis c'est basé sur Chromium, fait que c'est quand même assez...
sécuritaire de base.
Ouais, okay. C'est ça, ouais.
OK, c'est bien, faudrait peut-être que j'essaie ça à un moment donné, mais... Ça doit avoir ses mauvais côtés aussi d'être totalement anonyme parce que tu vas à un site puis ils te reconnaissent pas nécessairement. Puis, je sais pas, tu as des sites comme Facebook qui vont mettre un cookie dans ton Furteur puis tu vas retourner puis tu n'as même pas besoin de faire de login. Tu n'as pas besoin de t'authentifier parce qu'ils te reconnaissent à cause du cookie qu'il a mis sur ton PC. Là.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être un trou de sécurité aussi parce que, bon, c'est facile de te loguer dans ce temps-là, mais ça apporte la facilité. Tandis que dans un Furteur comme Brave, tu serais obligé de t'authentifier à chaque fois parce que le cookie n'est pas sur ton PC.
Mais en fait, je pense que c'est probablement une tendance qui s'en vient aussi parce que cette valeur, je n'avais pas noté la nouvelle. Je crois que Firefox a annoncé qu'il voulait faire la même chose aussi.
Ouais, ouais,
si
ouais.
Deux ou trois versions, là, les deux ou trois prochaines versions de Firefox qui vont, par défaut, n'accepteront plus de cookies, mais tu vas avoir la possibilité de dire, ben oui, sur celui-là, je veux que tu le gardes. Puis,
OK. Ah ouais, le choix de dire de mettre des exceptions, mettons.
C'est ça, mais par défaut, il gardera absolument rien.
OK. OK, on verra bien. Ça, dernière nouvelle, on va terminer là-dessus parce que je trouvais ça drôle et pas en même temps. Connais-tu PewDiePie?
Oui.
Oui, oui. Personnellement, je connais PewDiePie. Je ne le suis pas sur YouTube parce que c'est pas vraiment mon... J'ai écouté quelques vidéos de lui puis j'ai un peu de la misère parce qu'il est un peu intense, là. Mais j'ai pas vraiment beaucoup regardé de ses vidéos, donc je veux pas le juger. Faudrait peut-être que je regarde un peu plus parce que, je veux dire, s'il y a des millions d'abonnés, ça va être parce qu'il fait quelque chose de pas pire. Hein. Il doit être mieux que moi qui en a même pas 200, là, mais même si ça monte, puis je trouve ça bien le fun.
Lentement, mais sûrement.
C'est ça, lentement, mais sûrement. Mais bon, il y a quelqu'un qui a trouvé une manière de pirater ou hacker des imprimantes pour envoyer un message sur ces dites imprimantes pour dire aux gens « Abonnez-vous à PewDiePie parce que PewDiePie, c'est la personne qui a le plus d'abonnés présentement sur YouTube, mais il est en danger de perdre son titre à un canal qui s'appelle T-Series, qui c'est un canal indien. » Indien d'Inde, là, qui ne fait que mettre des vidéos de musique et puis ils ont des fans à plus finir. Là. Ils ont 72 millions d'abonnés. Ils sont comme presque en train de rejoindre PewDiePie. Donc, le gars a décidé que c'était le temps de prendre les choses en main. Et puis, il a envoyé des messages sur des imprimantes. Donc, il a trouvé Il est allé sur des sites de piratage. Oui, ça existe sur le dark web. Trouver des places avec des scripts et des applications qui pouvaient rouler, qui allaient premièrement découvrir les imprimantes qui sont vulnérables, donc des imprimantes de compagnie qui sont ouvertes sur l'Internet. Et puis j'ai déjà vu ça. c'est spécial, là, mais des imprimantes qui sont ouvertes sur Internet que tu peux. Si tu tapes l'adresse IP, tu te ramasses dans la page web de l'imprimante de la personne. Et puis, parce qu'il n'y a aucun. C'est en arrière d'aucun pare-feu. C'est comme ouvert au public. Donc, trouver ces imprimantes-là. Et puis après ça, envoyer un script qui contactait l'imprimante et demandait à l'imprimante de sortir une feuille avec un message très très précis écrit dessus. Et le message disait PewDiePie is in trouble. And needs your help to defeat T-Series. Donc, PewDiePie est dans le trouble et a besoin de votre aide pour battre T-Series. Et PewDiePie est présentement la personne avec le plus d'abonnés sur YouTube et il est prêt de perdre sa première position par une compagnie indienne qui s'appelle T-Series, qui met simplement des vidéos de Bollywood et des trailers de films et de la musique. Il dit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous désabonnez de T-Series, vous abonnez à PewDiePie. Après ça, partagez avec vos amis, partagez-le sur les réseaux sociaux, dites à tout le monde, sérieusement, bro fist, le gars a imprimé en caractère ASCII un point comme pour faire un fist bump. Puis après ça, il a dit, extra point pour des points extra. Abonnez-vous à, probablement qu'il y en a un là-dedans que c'est son canal à lui. Puis, en tout cas, le gars était vraiment intense, là. Il a hacké, c'est-tu marqué combien d'imprimantes? Il a hacké plusieurs imprimantes, il y a plusieurs milliers d'imprimantes qui ont imprimé ce message-là, là. Puis il y a des gens sur Twitter qui ont dit, je suis arrivé au bureau un matin puis on avait ça sur notre imprimante, qu'est-ce que c'est ça? Mais bon, tu sais, c'est un peu, c'est drôle puis ça l'est pas, là. C'est drôle parce que le gars n'a pas vraiment fait de mal à personne. Il aurait pu faire pire que ça en hackant une imprimante disponible sur l'Internet. Là.
Oui.
Chose à ne pas faire, mesdames et messieurs. Là. Essayez de mettre vos imprimantes derrière un pare-feu, hein, sur votre réseau local et non pas visible par tout le monde. Parce que c'est difficile, mais c'est faisable de passer à travers une imprimante qui n'est pas mise à jour pour attaquer ensuite les PC, les serveurs et peu importe ce qui est sur le réseau l'autre bord. Fait. Mettez vos affaires à jour, c'est assez important. Donc, c'est un peu ça. C'est assez drôle un peu comme histoire. Il a trouvé 800 000 imprimantes.
Hein?
Disponibles publiquement. Et il en a attaqué seulement 50 000. Donc, le gars, c'est quand même pas un si pire trou du pet que ça. Quand même, là. Ça il a pris à peu près une demi-heure à faire le processus. Quand il a trouvé les bons outils. Fait que c'est pas tellement difficile. Donc, ouais. C'est ça. C'est ma petite histoire comique du jour. C'est quand même intéressant. Donc, je sais pas si PewDiePie va garder sa place de numéro 1. Je suis pas certain que ça va servir à grand-chose, par exemple, parce que j'ai pas mal l'impression que la majorité du monde qui ont reçu cette impression-là sur leurs imprimantes ne connaissent ni PewDiePie et encore moins T-Series.
Probablement. Ouais. Présentement, PewDiePie est encore à 1 100 000 peut-être de plus, plus ou moins. Là. Si vous faites une recherche un petit peu T-Series versus PewDiePie, il y a des live counts qui sont qui se retrouvent sur Internet qu'on peut suivre en temps réel le nombre d'abonnés de chacun.
Mais c'est juste drôle. YouTube, je trouve ça vraiment drôle aussi. Il y a tellement... Tu sais, PewDiePie, c'est un style de YouTuber, mais il crée son propre contenu, tu sais. Faut lui donner le crédit. Le gars est divertissant. Il crée son propre contenu. Puis, tu sais, il le fait probablement lui-même. Il fait peut-être pas son montage, là. Beaucoup de YouTubers de ce calibre-là ont des gens qui font le montage pour eux à cette heure, maintenant. Mais, quand même, le gars crée son propre contenu. T-Series, je veux dire, ils prennent une vidéo de quelqu'un d'autre puis ils la mettent sur leur canal. C'est,
ouais,
c'est pas de la création de contenu.
T'sais. Ils n'ont pas de crédit.
T'sais, puis je trouve ça un peu plate que YouTube laisse tant de canaux faire ça. Combien de canaux sur YouTube, combien de chaînes YouTube font simplement prendre la dernière bande-annonce d'Avengers, puis la remettre sur leur canal, puis ils vont se ramasser avec 3, 4, 500 000 vues. Quand ils n'ont rien créé, ils ont juste remis une bande-annonce qu'ils ont ramassée ailleurs. Ils n'ont rien créé, là. Puis quand un gars, je me mettrai pas là-dedans, là, je fais pas des vidéos d'hyper grande qualité, là, mais tu sais, quand moi, me ramasser 50 vues sur certaines vidéos, c'est une job à plein temps, là. Tu sais, puis je veux dire, je le fais, mon contenu, puis des choses comme ça, puis il y en a plein qui font du contenu 100 fois meilleur que ce que je peux faire, puis ont de la misère à ramasser, tu sais, 10 000, 20 000 vues sur une vidéo, puis qu'eux font juste reprendre une vidéo qui a été postée à quelque part, remettre ça sur leur canal, sans avoir rien fait d'autre, puis ils se ramassent avec, tu sais, 100 000 vues, 300 000 vues, puis, tu sais, de la publicité, des choses comme ça. Je trouve ça un peu plate là, que YouTube laisse ça comme ça. Tu devrais créer ton propre contenu à un moment donné, là.
Ouais.
Tu sais, sinon, ça devient comme juste trop facile. Mais bon, tu sais, c'est une vision différente, j'imagine, puis il y a de tout sur YouTube pour tout le monde, j'imagine. Donc, on va terminer là-dessus. Steve, si les gens veulent te jaser PC ou autre, comment font-ils cela?
Probablement Facebook, c'est peut-être le plus simple. J'essaie de partir quelque chose sur Twitch, mais on dirait que le temps me manque.
Ok, ouais. Ça arrive souvent, ça.
Ouais.
Que le temps manque.
Ouais. C'est ça. Sinon, Steve Lévesque sur Twitch. Puis bientôt, à partir de janvier, je veux essayer de pousser vraiment à plus sur le 48e parallèle. Il y a plein de choses qui vont s'en venir l'année prochaine avec ça. Hein.
C'est bon.
On va être big en 2019, je pense.
Bon, tu nous en reparleras. Sinon, moi, sur Twitter, c'est Scalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormo. J'anime aussi Ça roule radio, podcast sur l'automobile avec mon ami Marc Bouchard. J'ai aussi mon humble canal YouTube, Luc Desormo, où je parle surtout d'imprimantes 3D, un peu de gaming, un peu de technologie. À un moment donné, on va revenir avec les émissions en format vidéo de techno, là, quand on va faire un show techno de la réalité augmentée. Présentement, je suis en train de refaire un peu mon bureau gamer studio là, pour que ça soit un peu plus convivial pour faire du vidéo puis avoir un fond qui est quand même pas si pire. J'ai commencé à travailler un peu là-dessus. Ça s'en vient bien, mais c'était pas prévu. J'ai voulu juste déplacer mon bureau à un moment donné dans la pièce, mon bureau physique dans la pièce, puis il a décidé qu'il fendait en deux. Donc, il a fallu que je le jette puis que je me montre quelque chose assez rapidement. Donc, c'était pas prévu de faire ça là. Mais bon, ça s'est fait et c'est quand même pas si mal. Donc, c'est ça. Mais on va refaire des vidéos sur le show techno à un moment donné parce que c'est bien des fois d'avoir du visuel. Ça peut être intéressant. Là. Donc, on va faire un peu plus de ça dans le futur, peut-être pour 2019. Steve dit on va être big en 2019, mais on verra ce que ça donnera. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission techno de la réalité augmentée. J'espère que vous avez apprécié. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour probablement la dernière émission de l'année. Et puis ensuite, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Puis on va revenir en force en 2019. Pas en force, on dit ça, là, mais c'est réalité augmentée. Il ne faut quand même pas trop nous en demander. On va revenir, c'est tout ce qu'on va dire, en 2019. Donc merci à tous, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye.